Nous sommes mercredi 18 décembre 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
C'est le petit comité restreint. Hein. On va faire le bilan de l'année. Alors, on va couper ça en plusieurs petits morceaux, parce que finalement, il y avait pas mal de choses à voir. On va commencer par les morceaux un peu moins marrants, même voire franchement pas marrants, puisque on va commencer par la partie business, où il y a quand même 2-3 trucs à dire.
Ouais.
Malheureusement, il va falloir qu'on fasse la rubrique nécrologie. Alors, ça, on l'avait pas l'an dernier, mais là,
ouais.
Vu l'hécatombe, bah on est un petit peu obligé de parler de tous les gens qui nous ont quittés cette année et qui ont été importants dans le monde du jeu vidéo en général. Ensuite, on aura un petit focus jeu, on fera une petite pause musicale, on aura un petit focus jeu avec les quelques jeux un peu marquants de l'année. C'est souvent des jeux qu'on a déjà évoqués, alors, pour certains en long, large, en travers, et pour d'autres de manière un peu plus discrète. Donc on va, voilà, on va rebalayer tout ça assez rapidement. Si on n'a rien de nouveau à dire, eh bien, on ne dira pas grand-chose de nouveau. On va faire un petit Madame Irma, parce que c'est toujours très rigolo.
Oh, mais avez... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ? Oh
j'espère
là
que
là.
Vous avez tous préparé nos petites prédictions. Moi, je suis ouf, comme ça. On va essayer de tirer un petit bilan de l'année, pareil, encore une fois, une petite conclusion, chacun, qu'est-ce qu'on en a retenu, finalement. Et puis après, comme c'est la dernière, il y aura un Burger Quiz, parce que quand même, ce serait dommage de se quitter
oui.
autrement que comme ça. Voilà, on va commencer donc par la partie business. Il s'est passé plein de choses cette année côté business. Je pense notamment à Unity, Twitch, Discord, Riot Games, Eidos, Microsoft, Electronic Arts, Sony Interactive, Sega, Activision, Take-Two, Ubisoft. Tous ces grands éditeurs ont un point commun.
Les licenciements.
Les licenciements.
C'est de la merde.
Merci Zergy. Voilà, tout c'est de la merde. Les licenciements, les fermetures de studios. Ça a encore été une année très 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 compliqué pour l'industrie.
Bah, on en parlait la dernière fois, 16 000 licenciements, et puis je crois qu'il y en a eu entre temps. Sauf entre deux semaines.
Alors, je crois que sur le bilan que j'avais lu sur, je sais plus quelle feuille de chou, 2023 plus 2022 cumulé, on est à 30 000 et quelques. C'est quand même énorme.
Oui, ça commence à faire vraiment beaucoup.
Et puis, même le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Puisque, comme
Ubi,
vous le savez...
Ubi.
Bah, pas que Ubi, en fait. Même les petits studios indépendants français...
Bah, Dontnod, Spiders, il y a des problèmes aussi en ce moment. Alors, je crois qu'un des deux, commence à être résolu. Lequel des deux, je crois que c'est Spiders.
C'est possible. Il y avait une histoire qui est sortie sur Mediapart aujourd'hui d'un studio français, pareil, dans le sud de la France, j'ai plus le nom.
C'est Alchemy, avait... non ?
Oui, je crois que c'est ça. 17 salariés qui se retrouvent sur le carreau, les mecs étaient plus payés depuis 3 mois, donc ils sont en liquidation judiciaire.
Le truc sordide, c'est que l'employé qui avait levé le drapeau en disant « il y a un truc qui va pas » s'est fait virer parce qu'elle avait osé l'ouvrir, quoi.
Bah, faut fermer ta gueule, hein.
Sordide.
Ça, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Si tu remontes des problèmes et tu en dégages. Juste vraiment les mecs qui mettent la poussière sous le tapis. Mais alors, j'avais vu un truc comme ça sur LinkedIn, des gens qui disaient « oui, on a fait un sondage chez nous savoir si les gens étaient stressés, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens stressés, bah du coup on les a virés, comme ça il n'y a plus de personnes stressées chez nous.
Oh, putain,
vraiment, hein, c'est un vrai mail, hein, c'est vraiment un truc de fou. Hein.
Est-ce que vous connaissez la petite BD en trois cases ? Chez nous, le développement personnel est quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes heureux ? Non. Ok, très bien, je note, objectif non atteint.
Oui, c'est très bon, Marc Dubuisson. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, donc c'est... Je ne sais pas si la tendance va s'inverser, j'ai l'impression que c'est pas bien parti en tout cas.
Not really.
Voilà, alors il faut savoir que pour l'industrie du jeu vidéo en Europe, puisque on va parler de notre petit cas à nous, on va partir du principe que ces cons d'Américains, on va les laisser de côté. L'industrie du jeu vidéo en Europe repose essentiellement sur la France et sur l'Allemagne. C'est là où il y a le plus de studios, c'est là où il y a le plus de salariés et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Hein. Il y a des studios espagnols, il y a des studios portugais, il y a des studios britanniques, et ainsi de suite. Enfin,
t'as un petit vivier en Scandinavie aussi, hein, parce que les gros studios
d'Electronic
Arts sont en Scandinavie de mémoire.
Tout à fait. En Europe de l'Est aussi, hein. Je dis pas que voilà, mais je dis le gros de l'industrie en termes de nombre de salariés, en termes de nombre de studios, en termes d'investissement, il est franco-allemand.
Il y a plus rien en Angleterre parce qu'à une époque c'était aussi le fleuron du jeu vidéo, l'Angleterre en Europe.
Tout à fait. Tout à fait. Mais là, l'Angleterre, on s'en fout, c'est plus vraiment l'Europe.
Ah, tu parles de cette Europe-là. L'Europe non, continentale, la vraie.
L'Europe, on va dire l'Europe au sens large, parce qu'effectivement, c'est pareil, il y a quand même, vous pouvez admirer des studios ukrainiens, notamment, enfin, Stalker 2 a réussi à sortir, quoi.
Ouais, admirable.
C'est un peu un miracle, hein.
Oui, avec des gens qui ont quand même été appelés au front, et ainsi de suite, hein, je les rendais quand même dans des trucs qui étaient...
Et le studio de Baldur's Gate, qui est... Baldur étroite, l'Ariane, qui est polonais, belge. Eux, ils ont une stratégie studio sur différents fuseaux horaires et ils avaient notamment des studios en Pologne et en Ukraine. Et apparemment, ça a été assez compliqué avec les Ukrainiens à ce moment-là, pour des raisons évidentes.
Voilà. Mais bref, donc la France ralentit, l'Allemagne ralentit, et on voit mal comment l'industrie du jeu vidéo, qui reste malgré tout, même si c'est du logiciel, ça reste du logiciel de loisir. Je rappelle qu'en France, le syndicat patronal du jeu vidéo, c'est le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
Quel rapport avec le méchant de Dragon Ball, encore une fois.
Voilà, c'est très important de le rappeler. Bon, on voit mal comment ça va s'arranger, dans le sens où c'est du loisir. Donc si l'activité économique ralentit, si le pays commence à ralentir, le loisir, c'est le premier truc qui saute. Ça fait pas partie des priorités des gens. Les priorités, bon, c'est se loger, bouffer, se déplacer.
C'est pas le loisir, en plus, le moins cher, alors. Quand il y a t'as des alternatives.
Mais effectivement, il y a moins cher, oui, ça c'est clair.
Donc il y a un coût d'entrée. Parce qu'avoir une c'est console dont la plus moins chère est à 250€, quoi.
Exactement. On va revenir sur un autre petit truc qui a marqué GameStop, alors qui n'en finit pas de crever. Hein. Ça fait 10 ans qu'on annonce la mort de GameStop, mais GameStop est toujours là. Alors on rappelle que GameStop est une chaîne américaine, c'est l'équivalent d'un Micromania, quoi. D'ailleurs, pendant un moment, je crois que Micromania a appartenu à GameStop par l'entremettement d'un autre truc.
Je pense que c'est toujours le cas.
Je sais pas.
C'est Micromania Zinc ou un truc comme ça. Et...
Oui.
Ouais, mais ça, après, c'est un rebranding.
Oui, mais à un moment, ils étaient filiales d'un truc britannique qui lui-même était filiale de GameStop. Enfin, c'était bon. Je vais pas m'avancer.
C'était pas comment ça s'appelait, GameStore ou un truc
Score Games.
Score Games.
Oui, mais ça fait un moment, mais c'était ça qui a été racheté par des Britanniques, non?
C'est possible, ouais, je sais plus. Je sais que pendant un moment, ça a été un peu le bordel. Bref, donc GameStop avait racheté il y a quelques années Game Informer, qui était un magazine assez connu aux États-Unis, 33 ans d'existence, hein, et donc l'a décidé de le fermer, tout simplement. Hein.
Et puis il y a une fermeture assez sale. Violente, parce que c'est genre, on ferme le site, et les articles ne sont plus accessibles, même pour les gens qui les ont rédigés. Et Game Informer, c'est pas IGN, c'est pas...
Mais enfin, c'est...
Attends, comment c'est... Il n'y a pas un site qui s'appelle GameStop, d'ailleurs GameSpot, pardon.
GameSpot, non, c'est pas... Alors, voilà, c'est pas la même chose.
Enfin, en tout cas, Game Informer, c'est considéré comme un truc assez sérieux, alors pas au niveau de Gamasutra, qui est le gaming industry, mais ça reste quand même un site avec des articles sérieux, des témoignages de l'industrie, enfin, c'est...
À l'avantage, un peu, ouais.
Ouais, voilà, non,
mais ça reste un truc sérieux, et du jour au lendemain, effectivement, même plus d'archives disponibles, c'est-à-dire il y a 20 ans d'archives qui ont disparu purement et simplement.
Donc, ça se corrèle pas mal aussi avec des problématiques du web actuellement, c'est qu'à force d'avoir tout centralisé chez quelques groupes, s'ils décident de tout fermer du jour au lendemain, en fait, on perd une partie de l'historique d'Internet et des archives qu'on avait jusqu'à présent, donc c'est un peu... c'est toujours un peu triste de se dire que voilà, sur une décision d'un gars qui voulait juste économiser de la thune parce qu'il estime que c'est plus rentable le magazine, ben hop, perd toute une partie de sources d'informations qui du coup disparaissent, peut-être des interviews, des articles de fond intéressants et compagnie, quoi.
Tout à fait. Mais en plus on a alors c'est pas dans le conducteur, mais je le glisse au passage, on a eu aussi la fusion, alors je sais pas si on peut dire fusion, mais les sites Eurogamer, Rock Paper Shotgun et j'ai plus le dernier, mais c'est pas grave, GameIndustry.biz, si je dis pas de bêtises, qui pareil ont été rachetés par le même éditeur, qui a publié un article sur les trois sites en même temps pour dire bon bah maintenant c'est le même contenu partout. Il n'y a plus que 15 sites.
J'imagine que c'est un contenu ChatGPT.
Non, ça reste voilà, mais clairement il y a eu de la casse aussi. Il y a eu des journalistes qui ont fini à la porte parce que ça sert à quoi d'avoir quatre journalistes qui s'occupent de l'industrie. Et il y en avait un par rédaction. Maintenant, il n'y a plus besoin que deux.
Ouais.
C'est un peu logique. Voilà, donc c'est un peu.
C'est con, hein, mais vivement que ça se politise et qu'il y ait besoin de différentes opinions, quoi.
C'est un peu ça. Alors moi, je sais pas si tu te rappelles quand on avait parlé de Gamekult qui aurait pu être acheté par le Figaro, moi j'étais plutôt pour, hein. C'est le genre de truc potentiellement qui aurait pu être intéressant, je pense.
Oui, puis ça leur aurait fait
le Figaro, hein, je veux dire.
Non, non, mais ça leur aurait fait leur. Enfin, on était d'accord là-dessus. Ça leur aurait fait leur branche multimédia comme Le Monde à Pixel.
Oui, Pixel. Alors,
sachant que le Figaro, ils ont déjà une branche. Une branche multimédia éco qui marche plutôt bien, hein, parce que c'est eux qui ont l'interview, qui avaient une époque l'interview annuelle du directeur de Nintendo France. Ils l'ont encore.
C'est vrai. Chloé Donc, Wattie, oui.
Mais en fait, surtout pour un journal comme Gamekult, ça donne accès à des journalistes professionnels qui peuvent faire des enquêtes au long cours. On en parlait peut-être la dernière fois, je crois, avec Canard PC. Canard PC avait fait cette démarche avec Mediapart et Le Monde sur Crunch Investigation, pardon. Et ça, c'est le genre de choses que Gamekult avait pas accès, justement, et aussi bah, juste un studio de journalistes. Et pour le Figaro, ça leur fait une section vidéo intéressante, donc ça aurait été extrêmement intéressant pour tout le monde.
Tiens, j'en profite pour le placer. Bonne chance à la nouvelle rédac de Gamekult. Croyez-y, alors, les mecs.
Nouvelle rédac, donc.
En fait, c'est la même depuis 2 ans, c'est juste qu'ils ont enfin le droit de l'ouvrir, quoi.
C'est ça, ils ont enfin le droit de bosser, en fait.
Ouais, c'est vrai qu'effectivement...
Ils étaient au chômage depuis 2 ans, non? Ou c'était...
Ah non, mais ils n'avaient pas le droit de faire de test, pas le droit de faire de preview, enfin que du publi rédactionnel à la con, et ouais, ça semble se tasser un peu et de redevenir intéressant.
Et du coup, t'as des gens qui payaient pour le premium avec 0 article premium.
Mais attends, ils faisaient quoi en fait?
Bah on sait pas. Et même eux, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment au courant de leur avenir. Hein.
Ah mais ça doit être badant. Hein, quand tu vas au taf en n'ayant rien à faire, ça fait chier.
Surtout quand tu vas pour parler de ta passion jeux vidéo et qu'on te dit « Ah bah non, mais en fait, les tests, tu t'en fous, tu vas juste faire un petit article d'opinion et basta. Hein. Par contre, fais-moi des news, s'il te plaît. »
C'est ça. Puis surtout des news pas forcément... Là, la news ChatGPT, par contre, de temps en temps, alors c'était peut-être pas ChatGPT, mais ça y ressemblait, quoi. Bref, la suite, on a Embracer Group qui a éclaté, littéralement, c'était au milieu de l'année. Alors Embracer Group, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça avait fait un petit bruit en 2022, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs, 2022 et 2023, puisqu'ils avaient fini par acquérir, alors Crystal Dynamics, Eidos, ils avaient récupéré tout un tas de propriétés intellectuelles, dont Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain, ils avaient récupéré les licences du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, pour les jeux vidéo, ils avaient récupéré plein d'autres trucs, quoi. C'est eux qui avaient aussi tous les jeux de société Asmodée, je sais pas comment on dit. Donc voilà, notamment, c'est beaucoup les adaptations en jeux vidéo, de jeux de plateau et de jeux de société. Donc c'était devenu un truc assez gigantesque, Embracer Group. Vous avez aussi racheté Limited Run, notamment Tripwire Interactive, enfin bref, ça commençait à faire gros. Vraiment.
Ils ont voulu grossir trop vite, non?
C'est ça, ils ont voulu grossir trop vite et ça a totalement éclaté. Et donc, ça a éclaté, mais ça a éclaté de manière un peu foutraque, puisque finalement, ça a éclaté en 3 gros morceaux. Il y a Middle-earth Enterprise and Friends, qui est en fait une espèce de juste de parapluie. C'est-à-dire que c'est juste pour mettre à l'abri les licences Lord of the Ring. Donc c'est vraiment juste une espèce de coquille vide qui détient les licences Lord of the Ring pour pouvoir les vendre à d'autres studios. Mais qui ne va plus rien en faire.
Ah,
donc c'est gestionnaire de licence.
J'allais dire, préparez-vous à voir le jeu de merde sortir régulièrement pour garder la licence.
Même pas. Par contre, il y a moyen que tu vois Electronic Arts soit obligé d'aller payer cette structure-là pour faire un jeu Lord of the Ring, par exemple. C'est plus dans ce sens-là qu'on risque de voir les choses. Il y a Asmodee Group qui a donc repris une partie de son indépendance. Donc pareil, jeux de société, jeux de plateau et les jeux vidéo qui sont associés. Et il y a, je crois que c'est Coffee Stain and Friends qui en fait... Pareil, est une espèce de structure de défaisance qui va garder la propriété intellectuelle d'un certain nombre de trucs indés. Alors, j'ai pas la liste exacte, hein, vous m'excuserez. Mais voilà. Donc, c'est vraiment le truc, il est monté en flèche en 2022, en 2023, puis là, ça fait piouf, ça a éclaté en vol. C'est pas du dégonflage, là, c'est vraiment...
Mais du coup, ils ont perdu des trucs au passage, parce que Eidos, c'est redevenu indépendant, non?
Alors, je crois qu'Eidos est redevenu indépendant. Gearbox est repassé dans le giron de... Ils ont fermé Volition, c'est ça? Oui, je crois que Gearbox est repassé chez id, effectivement. Un truc comme ça. Ils ont aussi fermé Free Radical Design. C'était l'an dernier.
C'était encore ouvert?
Oui, en 2023, c'était ouvert.
Vrai Radical Design, c'était en cours. Oui, oui. Je croyais que c'était mort depuis longtemps, ça.
Non, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit truc, mais... voilà, et je crois que c'est Take-Two qui a racheté Gearbox, donc en fait, en gros, ils ont vendu les meubles...
Take-Two, t'as raison, c'est Take-Two.
C'est ça. Ils ont vendu les meubles en fin d'année dernière, et le reste a fini par exploser en vol. Bon, c'est un peu triste, mais c'est vrai que dans la série licenciement, éclatement, bon, ben, on y est, quoi. On est là-dedans. On est là. Nous avions aussi la fin du online de la 3DS et de la Wii U. Hein, mine de rien. Ah, ça fait un petit quelque chose, je trouve.
La fin d'une époque. Mais c'est quoi une Wii U ?
Avec le dernier déconnecté, je crois que la dernière personne a été déconnectée, je crois, un mois après, ou un truc comme ça.
Non, plus longtemps que ça. Alors en fait,
plus longtemps que ça, même.
C'est pas tout à fait vrai, parce que je rappelle que la 3DS et la Wii U fonctionnaient avec un système de pair à pair, donc en fait, tant que tu n'as pas laissé tomber ta partie et que tu connectais à une autre personne, techniquement, t'es, entre guillemets, toujours sur le online. C'est juste que quand tu reviens sur le menu, bah, ça peut plus fonctionner. Tu ne pourras plus retrouver de partie, puisque tu n'as plus le serveur qui faisait la mise en relation. Mais une fois que la mise en relation est faite, en gros, tu n'as plus besoin de ce serveur. Donc t'as comme ça des gens qui, apparemment, sur 3DS, j'avais lu que jusqu'à il y a, je crois que c'est septembre ou octobre de cette année, il y a encore des gens qui étaient connectés à une partie de Mario Kart 7.
Ah ouais, loin.
Oui, non, mais loin, mais parce qu'en fait...
Ça fermait en mars, non?
C'est ça, oui. Mais en fait, le truc, c'est tant que t'es pas déconnecté, donc tu laisses ta 3DS allumée, le mec en face laisse sa 3DS allumée, ça peut durer longtemps, tu vois.
Incroyable.
Je trouve ça bon, assez incroyable, mais voilà, le système fonctionnait comme ça. On rappelle aux gens qui nous écoutent qu'il y a un système qui s'appelle Pretendo et qui fonctionne très très bien, notamment sur une Wii U piratée, qui permet de jouer à énormément de jeux Wii U, pas tous. Il y en a beaucoup beaucoup qui sont supportés. On se permet de rappeler aussi que tous les Call of Duty sortis sur Wii U continuent de fonctionner, parce qu'ils ne se servaient pas des serveurs de Nintendo, donc voilà, si vous voulez jouer en ligne, c'est comme ça.
Et si je me trompe pas, pour la 3DS, il y a un truc qui s'appelle Level 256, je crois.
Mais c'est pas Pretendo aussi ?
Non, Pretendo, je crois que c'est que la Wii U.
Voilà, en tout cas, grâce à la communauté, grâce à des gens un peu dévoués et un peu malins, du online sur Wii U, ils continuent d'exister. Je crois que Pretendo a ajouté récemment le support de Splatoon, qui n'était pas là jusqu'à présent. Donc on peut faire du Mario Kart 8, on peut faire du Splatoon, ce qui veut dire qu'on a couvert 90% de la librairie online de la Wii U. Hein, en fait.
Ah oui, non, c'est moi qui dis de la merde. Pretendo, ça gère la Wii U et la 3DS, et Level 256, c'est pour certains jeux 3DS.
Très bien. Ok, effectivement, peut-être pas tous les jeux 3DS. D'accord. Autre petite nouvelle, alors c'est Rayon Dinosaure, mais c'est là que tu vois que l'industrie a 50 piges. Cette année, Atari, qui existe toujours...
Eh oui.
Alors, va ressusciter la marque Infogrames, ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle. dans l'ensemble. Mais a surtout
nous
racheté...
Nous avons tous eu des PTSD à cette annonce.
a surtout racheté l'intégralité du catalogue Intellivision.
C'est ouf.
Alors, c'est un peu... Pour les plus jeunes d'entre vous, qui ne connaissent peut-être pas ça, parce que même moi, il a fallu que je me renseigne. Hein. Je vais être honnête, l'Intellivision, j'en ai vu une dans ma vie, mais c'était il y a longtemps.
Il y a de la poussière dessus, hein.
Wow, j'ai dû voir ça, j'avais genre 8 ans chez un pote, je me demandais ce que c'était, je me disais, wow, ça a l'air trop avancé comme console, puis ensuite tu l'allumes et tu fais, ah non, la NES c'est bien en fait. Alors l'Intellivision, c'est une console de jeux vidéo qui a été faite par Mattel et qui se voulait une concurrente de l'Atari 2600. Je rappelle que l'Atari 2600 est sorti aux États-Unis en 1978, une connerie comme ça, 77.
75 je crois, non?
Non, pas si tôt que ça.
Oh,
si.
Sérieux? Ouais, j'aurais dû, bref.
Fin des années 70.
Pile avant les années 80, ouais.
Voilà, puisque elle a subi le crash du jeu vidéo, le fameux crash du jeu vidéo dont on commence à se poser la question de s'il a vraiment eu lieu. Tout un tas d'historiens qui sont en train de dire que finalement, quand tu regardes les chiffres, bah en fait, pas tant un crash que ça.
Ouais, c'était surtout aux États-Unis. Hein.
Oui, c'est ça, ça a été très localisé et finalement sur. En fait, c'est plus le crash d'Atari. Alors évidemment, ouais. Atari était gros, mais voilà, bon bref. Donc c'était le principal concurrent d'Atari. Qui avait sorti donc le Mattel Intellivision et donc Atari a racheté l'intégralité du catalogue et prépare déjà apparemment une compilation Intellivision comme ils avaient fait Atari 50e anniversaire, on aura le Intellivision 50e anniversaire. Alors à titre de comparaison, c'est un peu comme si Nintendo avait racheté l'intégralité du catalogue de Sega, quoi.
Non mais c'est exactement la comparaison que j'avais.
Non mais c'est ça, hein. Ouais, y a pas de... Il y a vraiment que ça, hein. C'est vraiment la seule comparaison possible. Ou Sony rachète l'intégralité du catalogue de Microsoft, quoi. On est là-dedans. Alors peut-être que dans 50 ans, ça arrivera et qu'on se fera moins les malins.
Je mets un billet sur l'inverse, personnellement.
Moi, je pense que c'est comme Nintendo qui rachète l'intégralité de la Ouya.
Oh, putain, ah oui, ah oui. Ah, l'enfoiré.
Enfin, on sait tous que Mecton l'aura fait avant, mais...
Oui, ça, on se cotise et on peut le faire.
Je suis sûr que... Attends, on doit pouvoir racheter la marque Ouya, je pense, assez facilement si on est un peu malin. Hein.
C'est le bruit que tu fais quand tu la déballes.
Ouya. Voilà, et dernière news business de l'année, en tout cas un petit peu intéressante, l'ouverture du Nintendo Museum. Voilà, le musée Nintendo à Kyoto, Japon. Alors je sais pas si c'est au... Je crois que c'est pas au siège, alors j'ai absolument pas suivi cette histoire.
Hein. Je crois que c'est pas que... dans l'ancien siège.
C'est l'ancien siège, c'est le siège original qu'ils avaient à la fin du 19e, je crois, un truc comme ça.
Ah, le fameux truc, le fameux bâtiment qui avait été reconstruit sur l'usine d'origine qui fabriquait des cartes et qui a encore...
Ah ouais, le Love Hotel, je connais, ouais.
Ouais, putain, ça y est, ah bordel. Le central de taxi, oui, je connais. Nintendo.
Non, on sait pas. Peut-être qu'il y a un Love Hotel au sous-sol caché, on ne sait pas.
Mais il est dans le musée, en fait. Hein. C'est un Love Hotel interactif. Tu as des masques, tu sais, de Nintendo Labo, de VR, et puis... Attends,
oh non, putain, j'ai des images, arrête.
J'étais obligé de tenir le masque avec les deux mains, le problème il est là. Donc en termes d'interactivité, c'est vrai que c'est moins... Un peu dommage, quoi. Bref, Nintendo Museum, apparemment il y a une loterie je crois pour avoir les billets, enfin c'est très compliqué, c'est-à-dire faut pas se radiner au Japon en voyage en se disant tiens on va aller faire un tour au Nintendo Museum, ouais, ça ne fonctionne pas. Hein.
C'est un peu comme le musée Ghibli pour ceux qui sont déjà intéressés à comment y accéder. En gros c'est, je crois qu'ils ouvrent des places à certains créneaux et il faut être ultra au taquet pour les avoir. D'ailleurs le musée Ghibli t'as un business alternatif de gens, comme du coup au Japon c'est genre à 10h mais du coup chez nous c'est 4h du matin. T'as des boîtes qui font pour les touristes, bah tu me payes et j'essaie de te choper une place. Par contre, si j'ai pas de place, bah t'as perdu tes sous.
Waouh.
Voilà.
Ah, mais c'est... Après, si c'est, génial, vraiment l'ancien, hein. Si c'est vraiment l'ancien siège de Nintendo, je pense que c'est un bâtiment qui doit vraiment pas être grand. Hein, parce que quand tu regardes de l'extérieur.
Rénové. Après, c'est un musée, il y a eu des vidéos dessus, hein, c'est très interactif. T'as une boutique à la fin, c'est ça qui intéresse les gens en vrai.
Ah, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être... Après, je sais pas si tout est disponible. J'ai vraiment pas du tout suivi ce truc-là. C'est juste, je trouve qu'en termes de business, c'est intéressant parce que... Je crois que... Enfin, c'est peut-être pas le premier éditeur à ouvrir une espèce de petite galerie ou truc comme ça, mais un vrai musée géré par l'éditeur.
Sega l'avait fait, non ?
Ben, je ne crois pas, parce que pour moi, c'est souvent des initiatives qui viennent de... plutôt de la communauté, tu vois, plutôt des gens comme MO5, c'est plutôt qui vont aller monter des galeries, des choses comme ça.
Je dis de la merde, le Sega World, c'était une salle d'arcade, c'était pas du tout un musée.
Ah, tout à fait, c'est pas une salle d'arcade. Alors, t'as une petite, c'est un peu comme les, comment dire, les Planet Hollywood, tu vois, t'as toujours une espèce de petite partie musée dans laquelle tu vas avoir la tête de Sonic décapité, enfin les trucs comme ça, quoi. Mais... Eh bien, on va passer à la rubrique vraiment pas drôle avant de faire une pause musicale. Oh là là, c'est la partie RIP. La partie vraiment pas marrant du tout. Il y a eu énormément de décès cette année, de gens un peu connus, et ça fait un peu chier.
Alors faut pas trop s'étonner parce qu'on est quand même sur des gens qui commencent à les 60, 70 ans pour certains.
Ah, pas que.
Encore une fois, l'industrie du jeu vidéo a 50 ans, hein, donc c'est pas très étonnant de voir des mouches commencer à tomber. Hein.
Après bon, pour les non-japonais, on en reparlera, je pense, quand on arrivera à eux. Il y en a certains qui, à mon avis, ont eu des débuts de carrière extrêmement fatigants. Mais ça, quand ça se ressent en fait sur la durée. Hein.
Oui. Oui, on va être très clair. Il y a effectivement, je pense, des gens qui ont dû un peu souffrir dans leur carrière. On va commencer par Yoshitaka Murayama, pardon, qui était le game designer des Suikoden.
Et je crois que c'est du coup est aussi le créateur de Yuden.
Yuden Chronicles, tout à fait.
Oui, bah d'ailleurs, il est mort quelques jours. Enfin, l'annonce de sa mort a été faite quelques jours avant la sortie des Yuden, je crois.
Ah merde, oui. C'est moche. Et il aura même pas vu le Suikoden Remaster 1 et 2 qui sont sortis il y a pas longtemps.
Oui, bon, après, les traîtrises de Konami, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de les voir?
Je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait partie quand même des game designers un petit peu connus. On a alors forcément Akira Toriyama. Alors, ça n'est pas que du jeu vidéo, hein, puisque c'est avant tout un mangaka. Mais c'est quand même Dragon Quest, c'est quand même Chrono Trigger, c'est quand même Blue Dragon.
C'est aussi Tobal.
C'est Tobal, oui, effectivement, tiens.
Bien sûr. Ça l'oublier. En fait, Toriyama, très 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 prolifique hein, dans le jeu vidéo, mine de rien. Quand on y réfléchit, parce que y a, voilà, on a cité 4 séries, quoi.
Et... Oui, et puis pas des petites séries, quoi. Dragon Quest, c'est quand même...
Voilà, après, c'est
une petite ref, quoi.
Les années 90, à part Blue Dragon, qui est un peu plus récent, qui date de tes années 2000, de mémoire.
C'est ça, oui, c'est sorti sur Xbox 360, si je dis pas de bêtises.
Mais ouais, quand même quelqu'un qui a été prolifique. Et dont le design est associé à jamais, Dragon Quest est associé à jamais à ce design. Et là, vraiment, la question se pose, mais pour le prochain Dragon Quest, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Sachant que, tu vois, sur les mecs du 3, c'est déjà un autre artiste qui a pris en main la jaquette.
D'accord. Mais en reprenant le style de Toriyama, de toute façon, enfin, c'est quand même un style ultra reconnaissable. Donc c'est
pour la jaquette. Pour la jaquette, vite fait, hein, le perso, il est de 3 quarts de dos.
Il est 3 quarts de dos, mais après, c'est vraiment le design de Toriyama. Mais tu vois que c'est le style du mec d'Octopath, en fait. Bref. Ouais. Ça reste une mort tragique parce que c'est un grand nom de la pop culture japonaise.
Oui, de toute façon, mais c'est quand même un monument de la culture japonaise qui s'est écroulé. Hein. Il y a quand même pas à chier, quoi. Je veux dire, il y a pas que du jeu vidéo. C'est un mangaka. Effectivement, c'est un quelqu'un qui est très important. On avait parlé de Dr. Slurm, je me souviens jamais.
Dr. Slump.
Slump. Chaque fois, je me gourre. Mais qui, pareil, est un manga qui a eu un succès énorme au Japon, qui a permis de faire Dragon Ball, enfin, qui était un des piliers de Shonen Jump. C'est pas n'importe qui, quoi. On est sur un très très grand monsieur de la culture japonaise, tout court. On a aussi Mutsumi Inomata, qui était le character designer des Tales of. Alors, peut-être quelqu'un d'un peu moins connu, mais c'est pareil, character designer. Je sais pas s'il était mangaka à côté aussi. Elle, pardon.
Je sais pas s'il était mangaka à côté. Mangaka aussi, hein.
C'est pas impossible.
Les Tales of, historiquement, les premiers character designers, parce qu'il y en avait deux, on fait des mangas avant. Namco est toujours très lié à Bandai, et Bandai est toujours très lié au monde du manga et de l'animation.
Tout à fait. On a eu aussi, alors surprise, mais mauvaise surprise, hein, Atsuko Tanaka, qui était la voix japonaise de Bayonetta, et la voix japonaise de Lara Croft aussi, j'ai appris ça.
C'est la voix japonaise de Chun-Li dans Street Fighter 3.
Ah, oh. Intéressant aussi. Voilà, donc nous en France, on a une voix, alors je me souviens jamais du nom de cette actrice, j'en suis désolé, mais on avait une voix très 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 reconnaissable pour Lara Croft aussi. Mais voilà, vous imaginez ça, de la voix de Bayonetta japonaise qui dit tout un tas de cochonneries en japonais avec un ton tout à fait malicieux. Parce que je trouve que le ton de la japonaise est un petit peu plus facétieux que le ton de la britannique.
je préfère la britannique pour le coup. Enfin, ce petit accent british colle très très bien à Bayonetta.
Ça lui va très très bien avec ses petites lunettes. Hein,
et bon, surtout Atsuko Tanaka, hein, c'est la doubleuse du Major dans Ghost in the Shell.
Ah!
Surtout pour ça qu'elle est connue à la base.
Je ne la connaissais pas pour ça. C'est vrai que les comédiens et comédiennes de doublage japonais, c'est vrai que c'est pas trop mon truc.
Voilà, moi je suis un peu un otaku là-dessus, donc.
Et ben voilà, c'est parfait. On a James Earl Jones, alors qui
est oui.
Très 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 connu pour être la voix de Dark Vador, qui est aussi la voix de Mufasa. Alors non seulement dans les films dans Le Roi Lion, mais aussi dans les jeux vidéo du Roi Lion. C'est aussi, il a aussi fait des voix pour la série Command & Conquer. Il a fait quelques voix off pour la série Command & Conquer, notamment. Voilà, donc pareil, c'est quelqu'un qui était quand même plus connu au cinéma, à la télévision et dans le monde du doublage, mais qui a aussi fait quelques incursions remarquées dans le jeu vidéo, notamment parce qu'il a une voix extrêmement grave, qui était très très connue, et qui donc donnait tout de suite un énorme cachet à tout un tas de trucs, quoi. C'est tout de suite ça. Ça posait quelque chose. Il y a Masayuki Kato, fondateur de Falcom. Alors, je crois que c'est Antix qu'il avait amené.
C'est tombé, je crois, hier ou avant-hier, hein, pendant qu'on préparait le...
Putain, c'est moche.
Alors, qui est fondateur de Falcom, qui est plus président depuis un moment, hein, mais surtout qui est connu, c'est lui qui a lancé la série Is, qui est un peu la vieille série de Falcom encore actuelle. Et Yuzo Koshiro, sur Twitter, lui a rendu un petit hommage en expliquant que c'est grâce à lui qu'en fait, il avait pu démarrer dans la musique de jeux vidéo.
Ouais, ça
vache.
Vraiment, ils ont confiance sur. C'était. Comment il s'appelait ? Xanadu, qui était un très très gros succès au Japon à l'époque.
Sur et NES,
il
lui a demandé. C'est ça, sur Famicom ?
Alors, sur PC.
PC 88, peut-être.
PC 88, ça. Et en gros, il a dit à Kojiro. Ça a l'air pas mal ta petite bande démo. Est-ce que tu peux pas nous faire la musique de la suite de Xanadu ?
Putain. Pas de pression, hein, mais.
Ouais, et en vrai, de la part de Yuzo Kojiro, faire un petit hommage là-dessus, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est un peu de barrer Falcom en mauvais terme, puisqu'il voulait pas le créditer pour ses musiques, et Quand tu vois le boulot qu'il a fait sur les musiques de Is, c'est vrai que ça serait un peu dommage.
On a aussi Shuko Ishikawa, qui est l'ancien DG de Bandai Namco.
Donc, et
pareil,
ouais.
ça fait un peu bizarre de se dire ça.
Alors, quelle époque de Bandai Namco?
80, non c'est un...
Donc, à l'époque où c'était Namcot?
Ah non, alors Namcot est une... Alors,
non,
même compris. Au Japon, ils ne savent pas pourquoi de temps en temps c'est Namcot et pourquoi de temps en temps c'est Namco. Je suis très sérieux.
Et du coup, c'était Namco avant la fusion avec Bandai dans les années 2000, quoi.
Tout à fait. Ron Judy, c'était le cofondateur de Nintendo of America. Il y avait un japonais.
Oui. Époque Donkey Kong.
C'est ça. Vraiment, quand il débarquait effectivement avec les bandes d'arcade, hein, on en parle vraiment avant la NES, il y avait un japonais qui devait être un neveu de Yamauchi. Et Ron Judy, qui était donc cofondateur, parce qu'en gros, une compagnie japonaise s'installe aux États-Unis, il faut un japonais, il faut un américain. Comme ça fonctionne, tu vois. C'est vraiment. J'ai retenu aussi Rachel Lillis, qui était la voix anglaise de Ondine et de pas mal de Pokémon,
ouais.
Notamment dans les films, dans la série télé, mais aussi dans les jeux.
Et dans Smash Bros. Enfin, oui.
C'est ça. Et la dernière qui, moi, me fait très très mal au cœur, c'est Suzuka Asaoka, qui était donc.
Ça fait vraiment chier, oui.
Ouais, l'animatrice télé que vous avez interprète, ambassadrice de la culture japonaise.
Ah, de No Life.
De No Life, effectivement, présentatrice sur No Life, qui était la femme d'Alex Pilot, et qui est décédée d'un cancer il y a genre 5 jours.
C'est pas il y a un peu plus longtemps.
Non, ouais, c'est peut-être... fin novembre, un truc comme ça. Non, peut-être
ouais,
un
c'est
peu
ça.
Plus que ça. Oui,
je me souviens que dans un des derniers Gaijin Dash, ils lui ont fait un petit hommage.
Mais voilà, une grande dame de la. Parce qu'elle était effectivement donc traductrice-interprète, c'est grâce à elle qu'on a eu quelques trucs qui sont arrivés en France qu'on n'aurait jamais eu sinon.
Ah bah tout, Pocket Chami, tout ça. Mais... Oui, oui, Antix, j'ai vu l'hommage en question, a priori c'était une nana qui bossait énormément dans l'ombre, justement pour.
C'est ça.
Oh, je pense qu'elle a fait pas mal de. Enfin, grâce à elle, il y a eu pas mal de. Japanese ou de travail avec les endroits japonais qu'on puisse faire quoi.
Tout à fait, non mais c'est vraiment elle fait partie des j'allais dire des travailleurs de l'ombre finalement pour la culture japonaise en France donc bon ça fait quand même très très mal au cul surtout qu'elle est morte à 49 ans. C'est vraiment
c'est jeune non.
Ça fait chier.
Mais dans le lot hein, des gens qu'on a cités, il y en a ils sont morts à 59 ans, 60 ans. Akira Toriyama était pas si vieux. Hein.
Oui, non mais c'est ça, mais je pense qu'Akira Toriyama c'est typiquement le genre de mec qui devait effectivement alors pour avoir déjà vu quelques photos, il devait fumer genre 4 paquets de clopes par jour déjà. Mais voilà, de toute façon
bah en fait lui il fait partie de cette génération de mangaka du Jump, c'est le magazine de publication où il les essorait très jeunes à leur faire 20 pages de chapitres par semaine. C'est énorme hein, quand ils pensent. Et il y en a qui ont fini avec des centaines de merde. Donc je pense qu'il en fait partie aussi. Hein. C'est aussi pour ça qu'il dessine plus de manga depuis la fin de Dragon Ball.
Oui, je serais pas choqué que Dragon Ball ait été un beau crunch aussi toute ta vie.
On l'a forcé à continuer parce que ça marchait. Hein.
Ouais. Bon, et ben c'était pas très joyeux, mais du coup on va quand même faire une petite pause musicale, on va revenir avec des trucs un peu plus joyeux, on va essayer de faire un petit bilan jeu, on va passer assez vite, hein, histoire de pas trop traîner. On va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Megaman Zero 2, ça nous a été proposé par Monsieur Fulgence, qu'on remercie. Le morceau s'appelle Ice Brain, c'est composé par Hippo Yamada et Setsuo Yamamoto. C'est pas dans le jeu, puisque c'est une version arrangée. Donc ça va être de meilleure qualité que ce qu'on avait dans le jeu. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc on va rapidement balayer les quelques jeux de cette année. On a déjà parlé de la plupart d'entre eux, donc on vous renverra potentiellement aux émissions correspondantes. Il y en a certains qu'on n'a pas abordés, qui restent quand même des sorties un petit peu intéressantes, donc on en glissera un petit mot si on peut, mais Voilà, l'idée, c'est de balayer assez rapidement, on va dire un gros quart d'heure, les grosses sorties de l'année, les quelques déceptions qu'on a eues, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Donc je vais égrener ça de manière un peu rapide. L'idée, c'est vraiment, on rebondit 2-3 phrases, et puis voilà. La plupart du temps, encore une fois, quand c'est une grosse sortie ou un truc un peu important, nous avons une émission dédiée. On a commencé très fort en janvier avec Prince of Persia The Lost Crown. On a une émission dédiée.
Et c'est toujours aussi bien.
On rappelle qu'il faut que j'y joue.
C'est un jeu que j'ai recommandé à deux collègues qui m'ont dit « Mais il est juste génial, le jeu. » Donc voilà, Ubisoft, vous savez ce qu'il reste à faire, faut faire des jeux comme ça.
Alors,
C'est mal barré
parce qu'ils ont dessous l'équipe. Voilà, c'est ça. Ils ont tous retourné sur BGE2.
Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que le jeu a quand même été récompensé aux Game Awards. Alors, on n'a pas parlé des Game Awards parce qu'on n'a pas envie, mais là, en l'occurrence, il y a peut-être un truc un peu notable, c'est qu'il a gagné le vainqueur de la catégorie accessibilité, qui en général nous touche aussi beaucoup, parce qu'il y a effectivement de très très bonnes idées d'accessibilité dedans. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore joué à Prince of Persia The Lost Crown, que vous aimez les Metroidvania, que vous aimez les jeux de plateforme, mais foncez, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Vraiment.
Vu qu'ils sont sur BGE2, ils vont avoir beaucoup de temps libre.
Ah putain, les bâtards. Attention, en général, quand on te dit tu vas travailler sur BGE2, tu peux commencer à mettre à jour ton CV. Hein.
Bah, en fait, historiquement, c'est un projet justement un peu détente pour qu'ils puissent tester d'autres formes de gestion de projet et sortir un peu
de management toxique.
C'est ça. Bah, en fait, ça se passait plutôt bien. Je recommande le Mardinal de Goto sur le sujet, sur la chaîne d'Origami, il expliquera beaucoup mieux que moi
un petit peu
ce qu'il a eu comme écho sur l'équipe, mais apparemment les mecs étaient très contents d'avoir fait le jeu, et bah du coup quand on leur a dit vous allez aller soit sur Binding Good and Evil, soit sur Rainbow Six, bah ils ont un peu fait la gueule.
C'est pas très très étonnant. Il y a eu la ressortie de Another Code Recollection, qui est donc le Another Code 1 et 2, alors j'ai plus le titre exact, parce que le premier s'appelle Another Code, le deuxième s'appelle Another Code, Lost Memory Air Refined with Funky Kong. Bref.
J'ai fait, c'est comme à l'époque, énigme retapée, c'est petit point and click sympathique pour découvrir le genre, mais ça casse pas trois pattes à un canard.
Oui, alors moi ma fille a adoré, elle trouvait ça très très bien, parce que on pouvait jouer une fille, ça c'est bien, et qu'elle a bien aimé les petites énigmes, et qu'elle a bien aimé l'histoire, enfin voilà. Mais c'est... Effectivement, c'est pas un grand jeu, mais c'est quand même un truc un peu notable, c'est que même des jeux un petit peu des seconds couteaux de la Wii, on arrive dans une période où les gens qui y ont joué quand ils étaient petits, donc il y a un petit peu plus de 15 ans, bah, ont envie de redécouvrir ou de faire découvrir ça à d'autres, et ça ressort, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée et une bonne nouvelle.
Oui, de la Wii et de la DS, et moi ça m'a juste donné envie de rejouer à Hotel Dusk. Celui-là, quand vous voulez, celui-là j'avais adoré.
Il n'y avait pas un remake de prévu de ce truc-là, d'ailleurs ?
Je sais pas.
Ah merde. Pareil, côté remaster, mais dans le jeu GBA, cette fois-ci, on a eu Mario vs Donkey Kong, qui était très bien.
C'est alors, vraiment, oui, pourquoi pas.
Oui. Moi, je dis oui.
Oui, très bien, très bien. Accessible, facile. Après, le 100%, c'est là où le challenge commence.
C'est ça. C'est-à-dire que les niveaux de challenge, ça commence à être compliqué. Mais ça reste très agréable, très, 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 très fidèle à l'original, tout en étant très joli. Enfin, vraiment... Rien à redire là-dessus. Balatro.
Allez, voilà. Lâchez-vous.
La drogue. Alors moi, ça a été la drogue pendant un mois, mais ça a été une drogue dure.
Ouais, c'est un peu ça. C'est très compliqué. Alors après, je trouve que... Alors, ça m'a beaucoup fait rire. Ma femme a fait beaucoup de Balatro. Parce qu'elle a bien aimé Dicey Dungeons, elle a bien aimé Balatro. Les deux premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est le jeu hyper austère. Et c'est vrai qu'en termes de... d'habillage, c'est hyper austère. Et le deuxième truc qu'elle m'a dit, et je trouvais ça très intéressant, c'est qu'à un moment, elle a fini, je ne sais plus quel deck, assez avancé, donc les trucs où tu commences vraiment à avoir des gros niveaux de difficulté. Là, faut vraiment tomber sur la bonne combinaison pour gagner. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de resets avant d'y aller. Et quand elle a fini, elle m'a dit, j'ai vraiment juste l'impression d'avoir eu du bol. Mais pour moi, ça résume parfaitement le roguelike. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de difficulté, c'est plus du talent, c'est vraiment juste de la chance.
Ouais, enfin, dans le cas de Balatro, on parle d'un jeu avec des figures de poker.
Oui, mais évidemment qu'il va y avoir de la chance.
Mais alors, pour le coup...
Quand ça ne repose que sur la chance, c'est un peu gênant.
Bah, moi, je trouve que ça ne repose pas tant que ça sur la chance, parce que tu peux vraiment manipuler ton deck avec les cartes dédiées et les jokers.
Si tu tombes pas sur les bons jokers, tu sais que ta run, elle est foutue, quoi.
C'est comme ça que ça marche, le rogue. Mais bon, l'idée, c'est qu'une rogue de Balatro, en une demi-heure, c'est fait. Oui, si tu veux tenter les scores astronomiques, parce que Une fois que t'as fait les 8 blindes obligatoires pour gagner, tu te retrouves avec les derniers étages suivants qui vous font faire des scores exponentiels. Mais par contre, un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que je trouve pas ça si austère, moi. Je trouve qu'au contraire, pour un jeu qui se repose surtout sur poser des cartes et faire des gros chiffres, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant visuellement à voir la petite musique quand le score augmente, de voir les flammes apparaître sur les chiffres. Je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant visuellement, en fait. Alors qu'en fait, c'est juste des chiffres qui augmentent. Et il y a vraiment un habillage qui est très très chouette dessus.
Je sais pas, quand tu compares à Dicey Dungeons, qui était la référence pour Madame, c'est vrai que c'est un peu plus austère.
Oui, mais je trouve que pour un jeu qui est...
Oui, qui est juste des cartes, c'est plutôt bien
des habillé. Des cartes et des chiffres, il y a un truc très vivant, quoi, et très très satisfaisant.
C'est sûr que faudrait peut-être le demander au mec qui a fait Balatro de faire l'habillage de des chiffres et des lettres, hein. Il y aura peut-être un truc à faire. Hein.
C'est pas mal.
Voilà.
Surtout pour un jeu dont c'est le concept.
Alors, Unicorn Overlord, pareil, on a une émission entière dédiée, mais on n'avait pas fini le jeu. Donc, Antique, si tu veux nous glisser un petit mot de la fin, sans spoil, hein, on va quand même y aller doucement.
Bon, voilà, moi, j'ai adoré le jeu, mais je trouve que sur la fin, il perd en vitesse. D'ailleurs, ça se voit, les derniers continents sont un petit peu plus expédiés, je trouve, que les premiers. Et en fait, c'est un moment où il te file des nouveaux personnages. J'étais là, genre, je sais pas où est-ce que je vais les mettre dans mon équipe, j'ai pas trop la motive de m'en servir. En fait, moi, je roulais sur le jeu, sur le dernier continent, et je fais bon, très bien, je vais pouvoir finir le jeu, je serai très content. C'est un peu déçu par la fin. Ça reste un très chouette jeu avec beaucoup de petits, beaucoup de petites choses. Ça, vraiment, secret, des petites quêtes annexes, des trucs à l'ancienne. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit goût de bon. Bah, il y a un moment, fallait finir le jeu parce que tu dois aller se casser la gueule, quoi.
Ouais.
Et ça sent.
En même temps, c'est 10 ans de développement, je crois, un truc comme ça, donc c'est quand même assez monstrueux. Quoi.
Après, vraiment, je pense que c'est un jeu sur ses 20 premières heures qui est absolument incroyable. C'est juste que voilà, il perd un petit peu de sa fraîcheur dans sa seconde moitié.
Peut-être qu'il aurait dû s'arrêter à une vingtaine d'heures.
En fait, je pense que comme beaucoup de tactical, ne pas dépasser les 20 heures, c'est une bonne chose.
C'est peut-être pas plus mal. Je vais glisser un tout petit mot de Star Wars Battlefront Classic Collection, donc après un Star Wars Battlefront 1 et 2 modernes, puisqu'il y a eu un Star Wars Battlefront 1 et 2 sur Xbox et PS2 qui était lamentable. On a ressorti la Classic Collection, c'est-à-dire en fait les remasters de deux jeux absolument légendaires, et en plus en les rendant jouables en ligne et autres. Et malheureusement, l'expérience de jeu est pas ouf. Alors je n'y ai pas joué moi-même, mais je connais quelques personnes, notamment deux ou trois collègues qui y ont joué, qui m'ont dit bah voilà, on retrouve pas du tout les sensations qu'on avait à l'époque. Et au global, le jeu est un peu bâclé, et je trouve ça dommage quand on voit la qualité des remasters qu'on a pu avoir certaines cette année aussi, parce que ça a aussi été une année de remaster, malheureusement. On a vraiment des remasters de très grande qualité qui sont sortis. Je trouve ça dommage que des jeux légendaires comme ça ne se retrouvent pas avec un traitement un petit peu meilleur, parce qu'au final, c'est à peu près certain que c'est le genre de jeu qui n'auront pas une deuxième chance avant au moins une vingtaine d'années, s'ils en ont une. Donc je trouve ça un peu tristoun. Voilà. On a eu, alors oui, je voulais juste évoquer un petit portage de l'impossible Rilogolo qui était Kingdom Come Deliverance, qu'on attendait pas du tout sur Nintendo Switch.
J'ai encore pas essayé ça.
Alors, moi j'ai essayé, il y a même un live dessus. Non, c'est chaud quand même.
Hein. Est-ce que c'est bien?
Non. Moi je trouve ça très moyen comme concept. Je sais pas, moi j'accroche pas du tout à ce genre de jeu là, ça me fait penser à des jeux comme Skyrim où j'ai pas du tout accroché non plus, alors pourtant c'est peut-être très bien, hein, mais... Et voilà, pour l'instant, les 10 premières heures, c'est Pecno Simulator, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Après, il y en a, c'est leur cam, pourquoi pas. Ce que je constate, c'est que le jeu sur Switch tourne, ce qui est déjà un truc un peu fou quand on y réfléchit. Mais voilà, effectivement, ça casse. Je trouve que le jeu lui-même casse pas trois pattes à un canard, mais encore une fois, ça, c'est plus un avis personnel. Je pense que je suis pas le public. On avait glissé, me semble-t-il, un petit mot dans un dojo bar de Princess Peach Showtime, qui est un très chouette Kirby. Par des mecs qui ont fait un Kirby. Voilà, donc plutôt à réserver à des... Enfin, si on est un grand enfant, pourquoi pas. Mais pareil, le challenge, ça va plutôt être le 100%. Comme dans un Kirby. Mais voilà, pour le deuxième jeu de Princess Peach où elle est héroïne, c'est pas raté. Alors que le premier était peut-être un petit peu plus compliqué.
Le platformer, là.
Ouais. Le truc avec l'île des émotions, là, c'était un peu moyen. On en a parlé tout à l'heure, mais Eiyuden Chronicle 100 Heroes, qui est donc le successeur de Suikoden financé par Kickstarter et dont on avait fait une émission consacrée au premier jeu qui était Eiyuden Chronicles Rising. On n'a pas fait d'émission sur ce second jeu parce que je pense que... Je sais pas si quelqu'un y a joué ici, peut-être pas.
Non.
Voilà.
Pas encore fait non plus, ouais.
Apparemment c'est sorti, visiblement les gens qui ont bien aimé Suikoden ont bien aimé ce jeu-là. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire que tout ce qui est sorti de Kickstarter n'était pas de la merde. Ça fait plaisir. Voilà, puis ça fait quand même partie des sorties un petit peu remarquables parce que c'était en Kickstarter, je crois, en 2014, donc ça a passé pratiquement 10 ans en gestation avant de sortir avec le fameux jeu apéritif qui était, lui en l'occurrence, un peu moyen. Donc voilà, ça fait plaisir
cool,
de voir que ça
avance. Très très répétitif.
C'est bah, c'était pas très très intéressant. C'est vraiment
un jeu bonus,
comment,
quoi.
Comment faire un mauvais, enfin, comment faire un RPG moyen. Voilà, t'as la recette sous les yeux.
Ouais, on a eu un énorme gâchis avant l'été qui était Endless Ocean Luminous.
Oh bah oui, c'est pas très beau, c'est pas très intéressant et on en fait le tour en une demi-heure.
Ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est le... Alors Endless Ocean est peut-être pas un jeu extraordinaire, mais il y avait quand même un mode histoire, un machin, là il y a vraiment pas grand chose.
Ah, il y a
quoi.
Que dalle, hein. Ouais.
C'est quand même extrêmement limité. Je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est le même studio qu'à l'origine, donc je sais pas s'ils ont eu des contraintes de temps, de budget, de je sais pas. Mais c'est un peu triste quoi parce que je sais qu'Endless Ocean 2 avait sa petite communauté de gens qui aimaient bien parce que oui c'est de la plongée, mais en fait il y a quand même une petite histoire, il y a quand même un petit truc derrière, enfin, voilà quoi.
Non plutôt le côté ouais, encyclopédie de faune sous-marine c'était intéressant, mais là même pas trop quoi.
Ouais. Je voulais glisser un petit mot d'un jeu qui est sorti sur Switch il y a peu de temps, qui j'espère sortir en boîte à un moment, ce serait très très chouette, qui est Crow Country. Alors on a, depuis, je dirais l'an dernier, peut-être l'année d'avant, on a un petit revival des jeux en 3D moche, donc des jeux qui essayent d'imiter la N64, la PlayStation, c'est vraiment une grosse tendance. Hein, on a eu beaucoup de jeux indés qui imitaient les potes 8 et 16 bits il y a quelques années, maintenant on est plus passé à la 32 bits, c'est un peu rigolo, mais on a vraiment des jeux... Voilà, on avance un peu finalement. On a des gens qui essayent de reproduire ça. Et il y a pas mal de jeux d'horreur notamment qui sont sortis. Il y en a un dont j'ai complètement oublié le titre, mais qui s'inspire fortement de Silent Hill, qui reprend le même genre d'angle de caméra, le même genre d'éclairage, vraiment tout ça. Et Crow Country est vraiment un jeu qui s'inspire très 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 fort de la PS1, si bien que vraiment en plissant les yeux, on pourrait le confondre avec un jeu PS1 perdu, hein, pour de vrai. Il y a vraiment des choses assez extraordinaires là-dessus, donc voilà, je sais que Jean-Fulgence va m'engueuler si je ne le cite pas, mais il y a Signalis, si vous n'avez pas fait Signalis, faites Signalis, c'est très très bien. Et pareil, ça s'inspire beaucoup de la 3D moche, avec des gros pixels, et puis de l'anti-aliasing qui marche pas très bien. Voilà, et c'est... Apparemment, Crow Country est assez chouette, je l'ai pas fait, mais il y a plein de gens qui disent vraiment, en termes de jeux d'horreur, ça marche plutôt bien. Et les jeux d'horreur inspirés de la PS1, ça marche plutôt bien, en fait, parce que t'as quand même des tropes que tu récupères et qui sont... assez facile à recycler finalement. On a eu Paper Mario The Thousand Years Door, donc la porte millénaire, encore un remake, mais d'un jeu assez légendaire. On a une émission consacrée. Je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, a priori non.
J'ai découvert il y a pas si longtemps qu'ils ont fait des remixes du thème de combat en fonction du chapitre dans le jeu.
Oh.
Et je savais pas qu'ils avaient fait ça dans la version GameCube, enfin dans la version Switch, parce que la version GameCube c'est le même tout le temps. Et je trouve ça super cool.
Ouais, effectivement, ça fait partie des petits trucs. Quand tu fais un remake, quand t'es au bout. Ah, c'est peut-être subtil, hein.
Non, c'est pas très subtil. Je les ai écoutés bout à bout, et là, genre, non, ça fait vraiment une différence.
Pareil, je voulais parler d'un petit jeu indé qui est sorti en boîte cette année, mais qui me semble était sorti l'année dernière, et qui était nominé pour les Games for Impact, c'était Chia. Le jeu qui a été développé par des Canadiens, mais qui sont d'origine Kanak, qui sont de Nouvelle-Calédonie. Voilà, étant donné qu'il se passe en ce moment là-bas...
Ouais, tu fais bien. Il est sorti sur Switch.
Il est sorti sur Switch. C'est très bien, hein. J'en ai pas fait une grosse partie, mais la première heure, c'est vraiment assez... c'est assez prenant comme jeu. Voilà, ça marche bien, donc si vous avez l'occasion...
Mais c'est sur la culture kanak, hein, tu dis.
C'est ça.
Excellent.
Il y a un gros bout d'inspiration de culture kanak, c'est ce que disent les développeurs, c'est qu'ils ont repris tout un tas de légendes locales pour raconter leur petite histoire... Donc c'est voilà. Et le jeu lui-même est très bien, ça dure je crois 5-6 heures, donc c'est vraiment court, petit indé, marche très bien. Donc vraiment, allez-y, foncez, je pense que ça vaut le coup. Ace Combat 7, pareil, on a une émission dédiée. Où on avait Renard qui nous a fait même tous les Ace Combat. Un peu miraculeux, ça aussi, comme portage. Qu'est-ce que t'en penses, mec, toi?
Oui, bah oui, oui. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces nuages.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et le jeu est toujours aussi cool. Et pour l'avoir terminé, avoir fait quelques niveaux bonus, bah c'est bien du début à la fin.
Ouais, ça marche quand même pas trop mal. Il y a eu un petit truc un peu rigolo cet été qui est le Nintendo World Championships NES Edition. Donc en fait, NES Remix 3.
Oui, complètement.
Mais complètement orienté speedrun. Attention, là c'est vraiment que de la vitesse.
Yes. Je l'ai torché. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé ce jeu? J'ai tous les badges, sauf les badges liés au challenge hebdomadaire, parce qu'au bout d'un moment, tu lâches l'affaire.
Oui.
Très orienté speedrun. Après, si vous voulez progresser, je crois que j'en avais déjà parlé, la feature qui est excellente, c'est que vous pouvez voir le run des top players avec incrusté dans la vidéo leur input.
Oui, effectivement, il y avait ce truc-là. Donc, c'est vraiment un... Très orienté challenge, hein, c'est assez marrant. Alors, je sais pas si ça a eu un grand succès, mais je trouve que l'idée est pas idiote. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est finalement que ce soit que orienté speedrun. J'aurais bien aimé que ce soit orienté challenge tout court. C'était le cas de NES Remix, qui avait tendance à être peut-être un poil plus varié. Mais là, en fait, c'est vraiment un hommage au Nintendo World Championship, qui était la fameuse cartouche.
Complètement. Dans le collector, il y a une cartouche dorée. Cartouche de NES.
Tout à fait. Mais qui est une fausse cartouche, hein, je précise, il n'y a rien dedans.
Qui est fausse, ouais, il n'y a même pas de port.
Ouais, voilà, c'est ça, le truc c'est du plein. Mais bon, c'est rigolo. Legend of Zelda Echoes of Wisdom, premier jeu officiellement woke de la saga Zelda.
Tu veux dire que tu comptes pas l'épisode où Link se travestit?
Stop, on a déjà fait ce gag une fois, à part commencer, c'est bon.
J'aime l'humour de répétition.
Moi aussi. On a dédié une émission complète à ce jeu, donc on vous invite à y regarder. Entre deux, moi, effectivement, j'ai un peu plus avancé. Il y a quelques donjons un peu chouettes.
Un peu doré, celui du marais.
Oui. Qui est vraiment un truc assez rigolo. Par contre, voilà, je...
Le boss final est à chier.
Ma fille a battu le boss final, je trouvais ça, effectivement, absolument à chier.
Oh oui, non, j'ai pas compris.
Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont pas osé aller jusqu'au bout du truc.
Ouais, moi j'avoue que ça m'a laissé une mauvaise impression du jeu. Après, j'ai pris du recul, j'ai fait. En fait, il était chouette. Mais vraiment, le.
La fin est mauvaise, quoi.
Donjon du Marais définitivement woke. J'aime beaucoup.
Le boss de fin a été fait le dimanche très tard.
C'est ça. La sortie, c'était le lundi, donc bon, à un moment, fallait y aller. Et donc, les deux dernières grosses sorties de l'année, c'était Mario et Luigi Brothership. Donc, on vous confirme ce qu'on disait dans l'émission, ça s'essouffle assez vite, malheureusement.
Ouais, c'est dommage.
C'est un peu dommage.
C'est même pas que ça s'essouffle, c'est que ça tire en longueur pour pas grand-chose, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du remplissage pas très utile. Dragon Quest 3, c'était il y a deux semaines. Pas vous embêter plus que ça, mais allez réécouter l'émission.
Pour coup, celui-là, on l'a pas fini. Hein.
Oui, alors, et puis à mon avis, il y en a encore pour un petit moment.
Bah, apparemment, le jeu se finit en 30 heures.
T'en es à combien,
si tu traînes. J'en suis.
Oui.
Je ferai plus de 30 heures, moi.
Je pense aussi, je me paume, mais avec plaisir.
Un autre petit portage miraculeux, en tout cas qu'on, moi personnellement, j'attendais pas, c'est Stray, le jeu du Potichard.
Oui.
Qui marche extrêmement bien sur Switch. Alors, il y a des gros compromis, hein. Il y a certaines scènes où vraiment la résolution est pas terrible, ou le framerate galère un petit peu et tout. Mais au global, les mecs ont réussi à préserver 95% du jeu. C'est assez ouf quand on voit la qualité du rendu qu'il a. Même sur Switch, alors évidemment, tu mets une PS5 à côté, bah oui, c'est plus moche, hein, évidemment. Mais en vrai, sur une Switch OLED, ça passe très bien. Ça passe vraiment très bien, et le jeu est extrêmement agréable. Voilà, et on va finir par deux petits remakes qui font un peu plaisir, et je vais laisser certains d'entre vous en parler, je pense. Il y a Little Big Adventure Twin Sense Quest.
Oui!
Un jeu légendaire de Frédéric Reynal et Adeline Software, hein, français Cocorico.
Yep. Retravailler juste ce qu'il faut. Alors, je n'ai pas encore terminé le jeu. Retravailler juste ce qu'il faut au niveau de la DA et surtout des contrôles. Il n'y a plus ce système de... Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier LBA, il y avait un mode furtif, un mode marche, un mode sport, un mode furieux. Et en fonction du mode qu'on avait activé, le bouton d'action ne faisait pas la même chose. permettait de marcher doucement, de marcher discrètement, de taper. Enfin, c'était un peu ouais. relou, quoi.
Bah, c'est typique des jeux, des jeux de la, du début, entre guillemets, de la 3D, dans lequel on savait pas encore trop comment faire, et t'avais souvent, effectivement, un mode exploration et un mode combat, par exemple.
Ouais, exactement. Donc voilà, ça se cherchait un peu. Là, tout se fait de manière fluide. Et le gros plus pour moi qui rend le jeu beaucoup plus agréable à jouer que l'original, c'est le lock. Le lock des ennemis quand on tire la petite baballe. Dans l'original, la baballe tirait tout droit et c'était une galère pour viser les ennemis. Là, ils sont lockés et le jeu te fait bien comprendre que ce n'est pas un jeu d'action. De temps en temps, faut taper des trucs, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est l'énigme qu'il y a derrière.
Et le dernier petit jeu dont je voulais parler, alors c'est sorti tout récemment, j'ai pas du tout eu le temps d'aller regarder ce que ça donnait, mais c'est pareil, ça fait partie des jeux un peu légendaires. Il y a Legacy of Kain Soul River 1 et 2, qui sont ressortis en version remasterisée. Apparemment, c'est basé sur la version Dreamcast, si je dis pas de bêtises.
Oh.
Et ça a été relissé complètement. Alors je rappelle, c'est un jeu qui est sorti sur PS1 et sur Dreamcast, et qui à l'époque était quand même un petit exploit technique, notamment sur PS1. Parce que c'est des mondes assez gigantesques.
Et qui se déformaient. Qui se déformaient. C'était ça l'exploit.
Ouais, c'était assez ouf. Et ça a apparemment été accouché dans la souffrance. Et donc, c'est des jeux que les gens qui jouaient sur N64 ou sur GameCube n'ont pas connus. Mais voilà, qui valent potentiellement le coup d'être faits. Ça fait plaisir de voir Legacy of Kain, parce que c'est pareil, ça fait, c'est une petite série. C'est une série B, on va être honnête, mais qui a ses fans et qui a ses petits trucs intéressants et ses petites fulgurances. Le 2, je connais pas du tout, je sais que c'est sorti exclusivement sur PS2, je crois, mais ça a eu un peu moins de succès, donc je demande à voir. Mais apparemment, les remakes sont... Enfin, le remaster est d'assez bonne qualité, de tout ce que j'en ai lu et vu jusqu'à présent. Donc cool. Voilà, potentiellement...
En physique, bientôt ?
Apparemment en physique, en début d'année prochaine.
Ok.
Voilà. Allez, on va faire un petit Madame Irma, et puis ensuite on va passer au Burger Quiz. Donc, vos prédictions pour l'année prochaine, Zergy. Je sens que la prédiction va être...
La Switch 2 annoncée le 31 mars.
Allez, fin de l'année
fiscale. Ils ont dit, voilà, c'est ça, hein, ils ont dit pour cette année fiscale.
Ah, donc le dernier jour de l'année fiscale. Mecton, petite prédiction.
Annoncé le 30 mars. Non, je déconne. J'avais dit que je te faisais chier. Pour être original, Turok Trilogy.
Albatar.
Sachant qu'il y a eu un nouveau Turok qui a été annoncé.
Il y a eu un nouveau Turok qui a été annoncé et ça a l'air tout à fait générique et ça me fait chier.
J'avais quoi ? J'avais Metroid Prime 4 reporté.
Oh. Oh non. Quand même.
Avec Metroid Prime 4 en jeu de lancement de la Switch 2.
Ouais, ah, avec une démo que probable. Tu peux jouer, une démo que tu peux jouer sur Switch et
qui s'appellerait Metroid Prime 4 Hunters.
Hunters, ouais. Avec une sauvegarde que tu peux transférer dans la version upscalée sur Switch 2. Je vais loin peut-être.
Ouais, non mais là c'est bien. Ça me paraît être le bon Madame Irma. Antix, une petite prédiction.
Alors moi j'ai deux prédictions. La première prédiction à la con, c'est que Miyamoto va continuer de faire le VRP du parc Universal Nintendo et nous proposer une Air Pikmin. Où on verra pendant toute la vidéo ramper au sol, il y a des Pikmin qui sortiront de son slip.
C'est parfait, ce serait génial.
Et la seconde, c'est que ma grande passion en ce moment, c'est de regarder un peu pourquoi les gens gamergate râlent sur les jeux qui sont trop woke. Et donc je parie que dans Metroid Prime 4, il y aura un extraterrestre non binaire et que ça va faire râler les woke parce que ça y est, Metroid. Et Samus, c'est plus une femme, et voilà, c'est pas un vrai jeu vidéo. Ils sont en train de ruiner Metroid avec leur extraterrestre non binaire.
Putain, il est horrible.
Non, mais de toute façon, ils vont gueuler parce qu'ils vont découvrir que Samus, c'est une girl boss, et voilà.
C'est ça.
Ah bah, elle est auto-entrepreneuse, techniquement.
Alors, je vais faire un autre pronostic, exactement dans la droite lignée. Je pense qu'il y aura tu sais, comme il y a un indicateur violence, sexe, tout ça, sur le PEGI, je pense qu'il y aura un truc woke.
Il y a déjà des listes, hein.
Il y a déjà des listes qui existent, c'est pour ça que je dis ça. Il va bien y avoir un organisme qui va certifier. Tout le forum 18-25 va aller se certifier pour mettre un indicateur sur les jeux quand ils sont woke.
On a un petit dernier pour la route, mais effectivement, ces mêmes personnes vont aussi se plaindre que dans Xenoblade X, on peut changer le sexe de son personnage quand on veut.
Ouais.
Ce qu'on pouvait déjà faire en 2015.
C'est vrai qu'on a Xenoblade Chronicle X l'année prochaine. Hein.
J'ai tellement hâte
10 ans après, quoi. Ça fait quand même...
Le meilleur Xenoblade.
Bref, allez, on va se faire une deuxième petite pause musicale, ça va durer beaucoup moins longtemps. Il s'agit du morceau, alors encore une fois sélectionné par Monsieur Jean Fulgence, que nous remercions. Oui, alors je vois dans le chat, il faudrait un vrai Dojo Seal of Approval, je suis d'accord. Et il faudrait aussi faire le vrai Seal of Sympa. ça marche comme jeu, voilà, c'est ça, le Seal of Sympa, ça fonctionne. Donc sur une suggestion de Monsieur Fulgence, c'est pour rester dans un thème un petit peu hivernal, nous allons nous écouter un petit extrait de la bande originale de Super Mario 3D World, composé par Asuka Hayasaki. Il s'agit de Snowball Park, qui est un morceau qu'on n'avait jamais passé, je ne sais pas pourquoi, qui est vraiment le morceau enjoué festif des niveaux dans la neige et où on fait du patin à glace. Et c'est très très chouette, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, comme c'est la tradition, c'est le Burger Quiz. Oh putain. Voilà. Alors, comme nous sommes extrêmement nombreux ce soir, wink, nous allons donc, je pense, faire Antix contre le reste du monde. Rigolez pas, il va quand même vous mettre une pin. Voilà, donc Zergy, Mecton, vous allez faire l'équipe reste du monde.
Yeah.
Et Antix fera l'équipe Antix, original, malin. Et nous allons commencer tout de suite par le sel-poivre. Vous connaissez le principe, c'est un questionnaire de rapidité. Il n'y a que 3 réponses possibles, il y a une dizaine de questions. Et à chaque fois, il n'y a que 3 réponses possibles. Les 3 réponses possibles ce soir sont Wii U, Bayrou ou les deux.
Oh, ça va être moche.
Mais où c'est que t'as chopé ça?
Je les ai faites moi-même, monsieur. Je les ai composées avec mes petits doigts.
C'est grâce à Macron qu'on a droit à ce magnifique.
On a droit quand même à des voilà, on a droit
La seule bonne chose qui viendra de la nomination de Bérou Premier ministre. Hein.
On a le droit quand même à des sels poivres de qualité. Attention, alors oui, comme Bayrou est a priori un homme, hein, sauf s'il est non-binaire, je ne juge pas. Et que la Wii U c'est a priori féminin, je dirais ça et pas il ou elle pour éviter de trahir le truc. Je le dis juste, ça fait un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais bon, c'est fait exprès. Alors, est-ce que vous êtes prêts, équipe Antix?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêts, équipe Reste du Monde?
Je suis pas sûr.
Alors, attention, question de rapidité, ça fait quand même 7 ans que ça sert pas à grand chose.
Les deux.
C'est donc Antix qui marque le point, j'ai entendu en premier. Ça peut se corrompre si on ne s'en sert pas.
Les deux.
Ah non.
Juste la Wii U. Ah, est-ce que l'histoire te donnera raison?
Ça peut se corrompre.
Comment ça, t'es en train de dire que Bérou est encore utile alors qu'il est, il est jugé pour une affaire de tournement de fond?
Ça peut se corrompre au Parlement européen.
Bérou.
Ah bah Bérou.
Et ben voilà. J'ai entendu les deux en même temps, je compte un point pour chaque. Il a quand même fallu vachement négocier pour l'avoir.
Bérou.
Moi j'aurais dit les deux, hein, parce que faire acheter une Wii U, c'est pas simple. Hein.
Ah non, j'ai compris ça au sens. Il y en a des camions, elles se vendent pas. Donc...
Oui, voilà, c'est ça. Hein.
Ok. Ça fait un très bon cale-porte.
Les deux.
Alors moi j'aurais dit la Wii, parce que Bérou en cale-porte, c'est un peu encombrant quand même.
je suis d'accord avec Zerg. On peut pas se permettre ce genre de choses là.
Moi j'ai choisi la réponse drôle.
Au moins, il n'y a pas de jeu Yuji Naka dessus.
Les deux.
C'est
non,
faux.
Bérou.
C'est faux, voilà, c'est faux.
C'est Bérou.
Non, je suis obligé de donner le point à l'autre équipe, faut quand même pas déconner. Sa durée de vie est limitée.
Les deux.
Bien joué. Avec un nom pareil, c'était perdu d'avance.
Les deux.
La Wii U.
Non, c'est la Wii U. Quand même. Le suivant aura forcément plus de succès.
Les deux.
Non, la Wii U.
Ah non, c'est vrai.
La Wii U, je suis obligé d'accorder le point, c'est forcément vrai, on l'a vu. Le suivant après Bérou, je suis pas sûr, hein. J'ai quand même un gros doute.
Oh, tu penses? Moi, franchement, je suis à peu près sûr que ça pourra pas être pire.
Je pense que c'est quand même compliqué. Personne n'a rien compris quand ça a été présenté.
Les deux.
C'est antique, effectivement. C'est imparable. Voilà, donc, à la fin de cette première manche, nous avons 6 points pour l'équipe Reste du Monde et seulement 3 points pour Antix. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le...
Je suis en train de faire une bureau. Je vais aller au conseil municipal de Pau, je pense que ce sera mieux.
Voilà, je pense qu'il faut que tu te sauves au conseil municipal de Pau. Nous allons donc passer aux Nuggets. Je vous rappelle le principe, une question, 4 propositions, une seule et unique bonne réponse. Comme c'est Antix qui a quelques points de retard, c'est Antix qui va avoir la priorité sur les questions. Il y a 8 questions au total. Et Winter Bix qui nous dit allez le reste du monde. C'est parfait, c'est vraiment nickel. Donc, Nuggets, Antix, tu prends ton temps. Voilà, une question, 4 propositions, une seule bonne réponse. Question numéro 1, qu'est-ce qui a duré moins longtemps que Concorde ? Réponse A, une tomate oubliée au frigo. Réponse B, la cérémonie des Game Awards. Réponse C, le gouvernement de Michel Barnier. Ou réponse D, le studio qui a produit Concorde.
Alors, quand on parle de durée de vie, c'est la sortie du jeu ou le temps de développement ?
La sortie du jeu.
Bah du coup, la cérémonie des Game Awards.
La cérémonie des Game Awards, alors, même une tomate dépend, fait un petit peu plus de 2 semaines.
Si c'est en ressenti, c'est le gouvernement de Michel Barnier.
J'ai envie de mettre un point de plus sur cette liste. Faudrait faire ça, le temps ressenti. Comment... Ça fait bien. Bon, équipe Reste du Monde.
Bonsoir.
Bonsoir. Pourquoi Balatro est-il classé 18+ ? Réponse A, parce qu'on peut parier du vrai argent dedans. Réponse B, parce qu'il y a des microtransactions prédatrices où l'on peut acheter des packs de cartes de footballeurs. Réponse C, parce qu'on y représente des jeux d'action et que représenter c'est mal. Réponse D, parce que c'était la volonté du créateur.
Bah, représenter c'est mal.
Et oui, représenter c'est mal. Il a même fait un petit post très très drôle pour dire je devrais peut-être mettre des microtransactions comme ça au moins tant que je suis 18+.
Tu peux acheter des paquets de cartes en jeu.
Avec la monnaie. Ouais. Non, pour les gens qui connaissent pas, c'est la monnaie du. Pour les gens qui connaissent pas, c'est la monnaie du jeu.
Que la monnaie du jeu. Il y a absolument zéro microtransaction. Le jeu est hyper clean de ce point de vue-là. Et pourtant ils auraient pu, les jeux de cartes, les machins. Ça aurait pas été très dur, vu comment c'est addictif. Vraiment, ça aurait pas été compliqué. Antix.
Yes, c'est moi.
Combien y a-t-il de jeux Final Fantasy VII au total ?
Oh merde.
Réponse A, un seul et unique sur PS1. Réponse B, le 2, l'original et le remake. Réponse C, 3, l'original, le remake et la renaissance. Réponse D, sans compter les jeux mobiles, 6, avec les jeux mobiles, 13.
Ah bah en fait, c'est... Alors... C'est vache. C'est des jeux Final Fantasy VII ou estampillé Final Fantasy VII ?
Estampillé Final Fantasy VII.
Et allez. Oh,
putain, bâtard. Alors, donc on a Final Fantasy VII, Remake, Rebirth, donc on est déjà à 3. On a ensuite Final Fantasy... Ah non, c'est les jeux. Du coup, il y a l'après-quel avec Zack, le remake de l'après-quel avec Zack.
Donc on est à 5. Il va tous me les citer.
Il y a Dirige of Cerberus, donc qui est le jeu nul sur PS2. Donc on en est déjà à 6.
Et ben voilà.
Asgard, ça compte pas parce que c'est des personnages en bonus.
Qu'est Smash Bros.
Donc du coup, c'est réponse D.
C'est la réponse D, effectivement. Il y a l'original, il y a Advent Children, il y a Dirige of Cerberus, il y a
Advent
Crisis
Children,
Core.
C'est le film.
Non, il y a un Advent Children sur PSP, s'il te plaît.
C'est pas juste le Blu-ray, le... c'est un film, Advent Children, il n'y a pas de jeu. Hein.
Si, apparemment, il y a un vrai jeu qui s'appelle Advent Children sur PSP, alors peut-être qu'ils apportent un autre nom ailleurs, mais
moi, je crois
est vraiment répertorié comme un
jeu. Film, hein. Pour moi, c'est juste l'UMD du film. Hein.
Peut-être que je me trompe, mais de toute façon, il y en a effectivement au moins 6, donc... Ça marche aussi avec les Kingdom Hearts, nous dit-on. Hein. C'est très très vache.
C'est très très vrai.
C'est très très vache.
Alors, Kingdom Hearts, en plus, t'as les jeux d'origine et t'as les versions améliorées des jeux d'origine.
Ouais, non, mais c'est l'enfer, quoi. C'est le trou du lapin, là aussi. Bref, équipe Reste du Monde, laquelle de ces consoles n'est pas sortie cette année ? Réponse A, l'Atari Lynx Mini, version portable de la Lynx avec 20 jeux dedans.
Putain.
Réponse B, l'Atari 7800+, version améliorée de l'Atari 7800 Mini avec 30 jeux dedans. Réponse C, la PS5 Pro avec aucun jeu dedans. Ou réponse D, l'Atari 400 Mini avec 25 jeux dedans.
Oh la
réponse A.
Oh, il est fort, il est fort.
Ce la portable, est très, très fort.
Il n'y a
joué.
Pas d'Atari Lynx Mini. Pourtant, on aurait pu. On aurait vraiment
et
pu.
Et Atari a ressorti des consoles mini, alors.
Ouais, ils ont ressorti...
Ouais, ils ont sorti une 7800 qui est compatible avec les jeux originaux.
Ok.
Et, et l'Atari 400, bah, c'est l'ordinateur Atari 400 en version mini.
Voilà. Et la PS5 Pro, apparemment, est sortie. Alors, pas bien compris, mais... Je pensais que c'était une légende, hein, mais voilà. Antix, laquelle de ces phrases n'est pas prononcée dans Unicorn Overlord ?
Oh merde.
Réponse A, j'ai décidé ce soir de dissoudre l'Assemblée Nationale. Réponse B, ah putain, il a des machins volants, bordel de merde, il a des machins volants. Réponse C, il mange les chiens, il mange les chats. Ou réponse D, ni A, ni B, ni C, et donc D.
T'es vraiment un bâtard. Du coup, c'est la réponse D.
C'est la réponse D, bravo.
C'était pas la évident, B aurait pu être prononcée. Parce que les trucs volants dans les jeux stratégiques, c'est toujours casse-couille.
On est bien d'accord, mais ça, c'est plus le joueur, en fait, qui pose ça. Hein. On est bien d'accord. Équipe Reste du Monde, depuis ça. Combien de temps n'avons-nous pas eu de Nintendo Direct ? Réponse A, bah, je sais pas, 2-3 mois. Réponse B, 10 ans, c'était le dernier direct de Tonton Iwata, donc le dernier vrai direct.
10 ans déjà.
Ouais. Réponse C, 171 jours, soit bien avant la dissolution. Ou réponse D, il y a eu un State of Play, pas besoin de Nintendo Direct.
Attends, mais c'était quand on a eu le State of Play ?
Mois de septembre. Hein.
C'était quoi le dernier ? Encore un truc Universal Studio ?
Alors, Nintendo Museum, je considère pas que c'est
tu
un vrai
pas.
Nintendo, faut quand même pas déconner.
Il y a eu un direct avant l'été, je crois.
Ah, ça se précise.
Direct avant l'été. L'été, c'était il y a 2-3 mois. Non. 171 jours.
Eh bien, c'est la bonne réponse. 171 jours. Je suis pas d'accord avec toi, Kirby. Voilà. Tonton Iwata restera pour nous le direct de l'amour, mais il y en a eu d'autres.
Non, oui. Si on refait le game avec la réponse de cœur, ce sera pas pareil.
C'est un peu ça. Antix, alors, je précise pourquoi cette question est là, parce que ça vous paraît bizarre. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas eu de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2024 ? Parce que ça aurait dû.
Parce que le CEO, ils ont préféré que ce soit un truc avec des NFT.
Exactement. Et donc, ils ont retiré la licence à Nintendo, ce qui est quand
même... Du coup, j'ai mon point, c'est bon.
Non, parce que c'est pas ça la question. Lequel de ces sports n'a jamais été représenté dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver ?
Ah, merde.
Réponse A, le deltaplane. Réponse B, le patinage artistique. Réponse C, le biathlon. Ou réponse D, la bataille de boules de neige.
Le deltaplane ?
Eh bien non, c'était le biathlon.
Ah, putain,
bah oui, il y a un fusil.
Un fusil, oui.
Ah oui.
Mais pourquoi le deltaplane dans Mario ? Je ne sais pas. Mais ça y était. Et aux Jeux Olympiques d'hiver, s'il vous plaît.
La bataille de boules de neige, bon ça, je l'ai senti venir, c'était le piège.
Ah, le deltaplane, moi je trouve que c'est le gros piège. Hein. Vraiment.
Bah oui, je me suis fait avoir aussi, mais...
Voilà, équipe Reste du Monde, et ce sera la dernière question de ces nuggets avant les menus. Qu'est-ce que le puff-puff ?
Ah, oh,
réponse A, c'est l'action pour une femme de frotter ses fesses sur le visage d'une personne. Réponse B, c'est l'action pour une femme de frotter ses seins sur le visage d'une personne. Réponse C, c'est l'action pour un homme de frotter ses couilles sur le visage d'une personne. Ou réponse D, c'est un dessert japonais à base de noix de coco et de vanille.
Putain, bon, c'est le B, mais tu fais chier.
Ok, c'est le B, effectivement. Mais ça aurait pu être le C, hein, ça aurait été beaucoup plus drôle. Hein,
là, ça aurait été... Non, bah, ça aurait été anti-woke.
Anti-woke, effectivement. Voilà. Pardon. L'équipe antique s'accuse un retard, mais un retard qui se réduit. Hein, voilà, nous sommes à 9 points contre 6. Tout est encore possible.
Ouais, c'est pas réduit, c'est pareil.
C'est donc le même écart. Tout est encore possible. C'est bien, cette émission est réalisée par des professionnels. Nous allons donc passer au menu. Nous avons 3 menus ce soir. Je rappelle, le menu, c'est un questionnaire. Alors, il y a assez peu de questions. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup plus, je suis désolé. Il y a 4 questions par questionnaire. Voilà, donc ça va être assez court. Nous avons un menu Castlevania. Nous avons un menu Balatro. Et nous avons un menu les techniques de rendu et d'animation de Turok sur N64 dont tout le monde se fout.
Est-ce qu'il y a vraiment des questions pour celle-là?
Il y a vraiment des questions.
Ah, moi, je prendrais Balatro.
C'est bien. Vous voulez pas un petit exemple de questions des techniques de rendu et d'animation de Turok 3?
Allez, faites-moi plaisir, parce que je sais que tu les as écrits.
Parce que, par exemple, comment étaient animés les différents personnages de Turok? Eh bien, avec des vertex, ce qui était une grande révolution par rapport à Quake, qui utilisait simplement des textures. Ah, quand même, hein, il faut le savoir.
Oh. Pas mal.
Voilà, bref, allez, on est parti pour un petit questionnaire Balatro. Quelles sont les mains qui existent dans Balatro, mais qui ne peuvent pas exister au vrai poker?
Alors,
il y en a trois.
Donc, on a 5 fois la même carte identique.
Tout à fait, 5 cartes de même rang, c'est un quintet.
Alors, t'as 5 cartes de même rang et t'as genre 5 fois la même carte, donc 5 as de carreau par exemple.
Tout à fait, aussi. Même carte, même rang, même couleur, 5 cartes de même rang et même couleur.
C'est quoi la dernière? Carte identique, 5 cartes de même rang et il m'en manque une. En plus, je les ai débloquées celle-là. Pas possible.
Allez.
Bon, bah là, trop.
Tu vas y arriver, tu vas y arriver.
5 fois la même, 5 fois identique. Pas les suites, c'est pas les couleurs.
Il y a un truc avec la même couleur, mais une combinaison de cartes.
La quinte flush, elle y est déjà.
La quinte flush y est, c'est une main qu'on peut faire au poker. C'est la main la plus difficile à faire au poker.
Oui, ben, c'est ça. C'est avec la même couleur. Oui. Ah, attends. Que se passe? 5 cartes de la même couleur.
Alors, 5 cartes de la même couleur, c'est un flush, ça existe,
ouais,
déjà,
ça existe
c'est une
déjà.
Couleur.
D'accord. C'est un rapport avec les couleurs.
C'est un rapport avec les couleurs. Tu donnes ta langue au chat?
Non, mais en plus, je suis sûr que je l'ai sur le bout de la langue, mais là, je...
C'est le flush house. C'est un full house,
oui.
Donc un brelan plus une paire, mais où toutes
couleur.
Les cartes ont la même couleur.
Je savais que c'était un truc avec le full house.
Oui, oui. C'était pas forcément très très évident. Ça fait partie des mains pas forcément très très évidentes à sortir. À deux près, combien y a-t-il de decks au total dans le jeu?
Putain.
À deux près, hein, je suis très généreux. 10. T'es sûr de ton coup?
Attends. De près. Alors attends, il y a vert, jaune, bleu, rouge, noir. Ça c'est les 5 de base. Et t'en as un pour chaque palier de difficulté, je dirais 12.
Et ben non, c'était 16.
Ah merde!
Parce qu'il y a aussi les decks challenge derrière.
Ah!
Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, ce jeu est une pute, je sais.
Ah la vache, j'ai pas fait les challenges pour ça.
Ah c'est pour ça. Quel est l'effet de Chico, l'un des 5 jokers légendaires du jeu?
Non, évidemment, je les ai jamais eu ceux-là.
Ah si, Chico, tu l'as forcément eu.
Non!
Ah merde!
J'en ai eu qu'un et c'était pas Chico.
Oh.
Oh, t'as eu le gros Michel.
Enfin, un légendaire, lui.
C'est pas un légendaire, gros Michel, mais il est uncommon. Alors, fun fact, il y a plus de Joker uncommon que de Joker common, ce qui est assez...
je sais pas, donc je donne ma langue au chat.
Et ben, il désactive complètement les effets du boss.
Oh. C'est fort, ça.
C'est le Joker où, quand tu l'as, tu peux te dire, ok, là, le jeu, on le finit. Normalement, si ça score un minimum, on le finit. Vrai ou faux, ce sera la dernière question. Balatro s'est vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires depuis son lancement sur mobile.
Vrai.
Et oui, c'est vrai.
Ça, je peux mettre une petite...
Oui.
Une anecdote sur justement le gros Michel et la Cavendish.
Oui. Je t'en prie.
Est-ce que vous savez pourquoi à quoi ça correspond exactement le gros Michel et la Cavendish?
C'est des...
La vraie vie de la vérité véritable.
C'est des variétés de bananes?
C'est ça.
Ah putain!
C'est laquelle des deux qui se casse, qui a une chance sur 15 de se casser?
Très facilement. Je crois que c'est le gros Michel.
Alors en fait, pour l'anecdote, le gros Michel c'était la variété de banane qui a été cultivée et vendue pendant des années, qui a été décimée à cause d'un virus du même genre que le champignon qui a créé la famine en Irlande à la fin du 19e siècle. Et du coup, il a fallu trouver une nouvelle variété de banane facile à cultiver avec un goût agréable et compagnie, un goût similaire, et bah c'est la Cavendish.
Ok.
Ah, intéressant. On en apprend tous les jours.
Je l'ai appris dans Intéressant. Non, pas dans Balatro, mais en fait c'est une émission d'Arte qui s'appelle Intéressant justement.
Ah, mais voilà. C'est intéressant, effectivement.
Du coup, j'ai compris pourquoi dans Balatro,
il y avait pour avoir la cave et gros Michel.
Il faut que tu perdes le gros Michel.
C'est ça. Équipe reste du monde. Alors, je vous cache pas que le score est serré. Mais quand même
je pense pas que j'ai gagné aujourd'hui.
Hein. Il va geler demain. C'est pas arrivé depuis quand? Il va vraiment geler.
Depuis la première émission, je crois.
Bah, en fait, la dernière fois, j'ai perdu.
Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut vraiment arrêter de faire anti contre le reste du monde, quoi. C'est vraiment. Bref, donc il vous reste les techniques des rendus et d'animation de Turok sur N64 dont tout le monde se fout ou Castlevania.
Je sais pas à dire, Guy. On part sur Castlevania. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, si tu veux, moi je connais pas du tout la série.
Je connais de loin.
Et ben voilà. Tu vas faire cavalier seul, mec. Ton.
Petite parenthèse, Esquive la boule de feu a commencé une rétro sur le sujet. Allez sur sa chaîne, c'est vachement bien.
Ah. Je veux bien croire que ce soit vachement bien parce que Castlevania c'est très très bien.
D'ailleurs, j'ai appris le nom du réalisateur de Castlevania.
Oui. On lui baise la question tout de suite. Putain, ça m'a assis quand j'ai appris que pendant des dizaines d'années, on ne connaissait pas le nom de ce mec.
Ah bah vas-y, hein, moi je le connais pas. Hein. Enfin...
Je l'ai plus en tête, mais genre le nom est sorti en 2021.
Non, Kara Designer.
Ça c'est Symphony of the Night.
Ah oui, d'accord, Castlevania, l'original.
L'original.
Le premier.
Ah en fait, oui, puisqu'on n'a jamais eu de générique, ils n'étaient pas crédités, les mecs.
Voilà, et en fait, ça fait que depuis 2-3 ans que son nom est apparu.
Ah putain, la vache. C'est moche, hein. Enfin bon. Bref.
J'espère que je t'ai pas pété une question.
Non, pas du tout. Alors là, au contraire, c'était vraiment focalisé sur les jeux. Et d'ailleurs, d'où sort ce questionnaire, pareil. Hein. Tout ce qui est dans le Burger Quiz, en fait, ne sort pas par hasard. Parce qu'il y a eu la Dominus Collection qui est sortie cette année. Aussi, qui était la compilation de tous les jeux Game Boy Advance Castlevania qui sont enfin disponibles.
C'était pas DS plutôt?
Non, c'est la version DS, oui, pardon.
Avec le très bon order, fait plaisir.
Parce qu'il y avait un Advance Collection qui était sorti l'année dernière, où c'est pareil, il y a tous les jeux Game Boy Advance, donc c'est quand même assez
chouette. Dominos, ça fait DS.
Oui.
Astuce,
malin. Bref, première question, dans le tout premier Castlevania, un boss est une anachronie évidente, lequel?
Attends, il y a qui?
Il y a qui comme boss?
Il y a le Frankenstein. Bon, il y a Dracula, évidemment. Il y a Méduse.
C'est Méduse. Mais... il est né dans les années 80.
Je sais pas, le T-1000.
Il y a pas de T-1000.
Non, mais
ça... Frankenstein doit être une anachronie. Frankenstein, c'est quoi? C'est début 20e siècle?
Eh bien, c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est la créature du docteur Frankenstein qui est anachronique, puisque le roman de Mary Shelley ne sortira que 127 ans après les événements du jeu.
Joli!
Bon, techniquement, Frankenstein est né avec des appareils qui n'existaient pas à l'époque de Castlevania.
Oui, bon, c'est bon. Voilà, tout de suite. Bref, dans Castlevania Judgment, de quels attributs Maria est-elle jalouse dans le mode histoire?
Une énorme paire de... Pardon.
Bah vas-y, hein, maintenant il faut... Voilà, il faut assumer. Hein.
Assume.
Le puff.
Non, Kirby, ça lui carte, c'est dans le troisième. Il est pas dans le premier.
Il est pas dans le premier. Alors...
Elle est jalouse de sa paire de boobs.
Elle est jalouse de la paire de boobs de tous les protagonistes féminins. On rappelle qu'elle a 12 ans. Hein. J'aimerais quand même qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Le Japon. Dans Castlevania Order of Ecclesia, le niveau de difficulté max est le niveau Hard Level 1. En quoi consiste-t-il?
Il y a un permadeath?
Non. Non, sinon ce serait vraiment infaisable, je pense.
Oui, il est dur Order of Ecclesia.
Ouais, en plus le jeu est payé.
Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire comme saloperie?
Je connais la réponse, je peux la donner, avoir le point?
Ouais, vas-y.
Ouais, vas-y.
Bah, tu peux pas monter de niveau. Pas à ce niveau. Hein.
C'est ça. Hard Level 1, c'est le niveau de difficulté maximum, mais tu peux pas monter de niveau. Donc le seul moyen d'augmenter ses cœurs, d'augmenter sa vie, c'est de récupérer des réservoirs de cœurs et des réservoirs de vie. Donc c'est pas la même chose. Hein. Les cœurs, c'est pour faire les unions, les magies, les attaques spéciales. Donc voilà, effectivement, c'est le jeu te bloque au level 1.
Alors, donc, pour le coup, dans Ecclesia, c'est peut-être le Castlevania... En mode Metroidvania où le niveau est le moins important.
Alors heureusement, j'ai envie de te dire, parce que quand tu vois certains boss, le niveau qu'il faut avoir pour les battre, je me dis qu'en level 1, ça doit vraiment être très tendu sans profiter des nombreux glitches du jeu, parce qu'il y en a de très nombreux. notamment il y a les histoires de cumul de bagues, si je me rappelle bien, parce qu'il y a tout un tas de trucs avec les Castlevania sur GBA et sur DS où il y avait toujours des systèmes un peu pétés où en fait quand t'allais dans le menu au bon moment au bon endroit tu pouvais cumuler des trucs complètement fous. Bref, ça devenait un peu cassé. Dernière question, putain là ça s'est serré de ouf, hein. Là vraiment c'est... le suspense est à son comble. Parmi les Castlevania Game Boy et Game Boy Advance, seul un n'est pas ressorti sur Nintendo Switch. Lequel ?
La vache.
Là, la question est dure.
Game Boy Advance. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui manque dans les collections ? Ah, j'en ai aucune idée. Bon, je mettrais quand même un billet sur un jeu Game Boy.
Moi, je dirais que Castlevania 2, qui est celui de la Game Boy.
Eh bien non, Castlevania 2 Belmont's Revenge sur la Game Boy et dans la collection Castlevania Legacy Collection.
C'est t'as fait ta petite pute et t'as mis qui Dracula ?
Non, parce qu'il y est dans la collection.
Ah, il y est.
Ce qui ne manque, c'est Castlevania Legends, qui est en fait le troisième épisode sorti sur Game Boy, qui n'est officiellement plus canon et qui donc a été complètement rayé de la carte. Konami ne l'a jamais ressorti.
Oh, c'est moche.
C'est très très moche parce que le jeu en plus est assez cool. Comme c'est le tout dernier Castlevania sur Game Boy classique, hein, vraiment noir et blanc et tout ça, il est beaucoup plus abouti que les deux autres qui sont quand même pas terribles. Hein, même pour de la Game Boy, Castlevania 2 sur Game Boy, c'est quand même pas ouf. Bref, eh bien, je comptabilise 12 points pour l'équipe Reste du Monde et 9 points pour l'équipe Antix. C'est donc une victoire des Restes du Monde, bravo!
Bravo!
Bon, je pense qu'on va être obligé de balancer les équipes pour le prochain quiz. Parce que là, c'est plus possible, là. Deux défaites d'affilée.
Ouais, bah, je pense que pour le sel et poivre, j'étais plus team faut que ce soit drôle, parce que j'ai envie de taper sur Mirou.
T'as bien fait.
Être très déçu qu'il n'y ait pas eu de questions, on peut le trouver au conseil municipal de Pau, hein, d'ailleurs.
Alors, écoute, j'essaye d'éviter les sujets polémiques.
Non. Bah excuse-moi, le calporte, c'est un cadeau. Hein. Franchement, celui-là, j'ai vu, je fais vas-y, let's go, je le prends.
Je suis d'accord. Mais voilà, il ne faut pas faire le con au seul poivre, hein. C'est quand même 10 points. Hein.
Ouais, bah là, c'est tentant. On est bien support depuis 3 jours.
On est d'accord. Bref, donc, c'est la fin de ce Dojo Bar, c'est la fin de cette saison. C'était la 24e saison, ça veut dire que ça fait 12 ans que nous faisons ça.
Putain, c'est
beau. Oui, ça fait quand même... un beau podcast. Je vais faire une petite auto-publicité, mais si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou sur Deezer, parce que je crois que j'avais enregistré un compte et j'avais mis un truc il y a quelques temps, mettez une petite étoile, c'est pas grand-chose, hein, mais ça aide un petit peu au référencement. On a entre 4 et 600 téléchargements de chaque podcast toutes les deux semaines, donc on vous remercie pour ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques gens qui l'ont sur leur téléphone, ça ne veut pas dire qu'ils l'écoutent, hein, mais qui l'ont sur leur téléphone, et ça fait quand même un peu plaisir. Voilà. Autrement dit, on vous fait... Non, il n'y a pas de burger de la mort. Bah, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Puis c'est le burger de la mort, en fait, c'est pas drôle. Voilà. Bref.
J'aurais dû balancer ça dans la section Madame Irma, c'est... on aura bientôt le OnlyFan du dojo.
On a déjà fait un poisson d'avril sur le sujet, hein, ça a mal tourné. Hein. Mais j'espère qu'un jour on aura ça. Bref, quoi qu'il arrive, on vous fait de très 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 gros bisous. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On vous retrouve l'année prochaine, probablement aux alentours du mois de février. Il y aura une émission Boomer Shooter.
Ah, il y tient, hein.
Je la ferai.
Bah, en vrai, mais fais le topic de maintenant, comme ça on a le temps de faire un peu les jeux.
Je pense que ce sera pas mal, surtout que les jeux, j'en ai quand même un ou deux à vous recommander plus que les autres, je pense. Et puis je sais que je crois que Zergy t'avait joué à Warhammer 40 000 Bolt Gun.
Oui, c'est moi qui te l'ai fait découvrir.
Ouais, effectivement, et c'est très très chouette d'ailleurs dans le genre, effectivement, et vraiment très très cool, même quand on connaît pas l'univers de Warhammer. Enfin bref, on va essayer de faire une petite émission là-dessus. Peut-être qu'on fera une émission sur les jeux d'horreur un peu rétro. Je pense à Crow Country. Je pense à... il y en a 2-3 autres qui sont sortis comme ça qui valent à mon avis le coup d'y consacrer un petit peu de temps. Mais bref, quoi qu'il arrive, on fait de très très gros bisous, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et vous aurez ce podcast pour Noël, c'est promis.
Oh.
Voilà, donc quand même, hein, il sera sous le sapin. Voilà. Bisous, et à plus tard.
Bisous tout le monde. Bisous, bisous.
Attendez, ah, j'ai pas préparé la fin.
À l'année prochaine.
Non.
LOL.
Mais tu vas mettre Tetris, bordel de merde.